Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission On en jase, ton émission d'actualité et d'analyse de tout ce qui se passe près de chez vous et dans le monde entier. C'est l'émission On en jase de midi à 14h. Évidemment, pour ceux qui sont là depuis le début de l'année, pour ceux qui arrivent, vous savez qu'on aura le caucus avec Antonine Iaccarini dans quelques minutes. On va entre autres revenir sur l'entrevue qu'on a fait avec Charles Milliard ce matin dans Marceau le matin. Et on va aussi parler de cette incohérence en gestion de l'immigration au niveau du gouvernement du Québec. Ah, Jean-François Roberge. Par texto 418-971-1021 pour nous joindre. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est les meilleurs moments de notre émission qui s'y retrouvent immédiatement après l'émission. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous rejoindre. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car à chaque jour, le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve. On va parler de très gros sujets aussi dans l'émission aujourd'hui. Stéphane Boyer, maire de Laval, vers 12h30, sera avec nous. Il annonce ça, il faut qu'il fasse un chèque $1 million au crosseur, au maire Gilles Vaillancourt, qui a volé la municipalité de 7 millions. Tout ça pour que le gouvernement canadien, qui en a pas assez dans ses poches, aille chercher de l'argent. On va parler de ça avec le maire. J'en crois pas mes yeux de voir cette situation-là. Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, va être avec nous. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a plusieurs jeunes à Repentigny qui s'en sont pris à une personne aînée qui fait de la surveillance dans un dépanneur. Puis, hey, peut-être des fois, je vous parle en bien de la jeunesse comme je l'ai fait la semaine dernière avec ce qui nous est arrivé dans notre tournoi de hockey du samedi. Mais là, ça n'a pas de sens. Ils sont une centaine de jeunes autour. Ils laissent l'aîné se faire frapper puis ils filment ça, eux autres. Ah ouais, personne qui prend la défense. On va parler de ça avec Roger Ferland. Est-ce qu'on est assez dur envers nos jeunes pour qu'à un moment donné, il y en ait un qui allume quand un événement comme ça arrive? Et évidemment, avec Luc Laliberté, on va faire le tour du conflit en Iran. C'est ce qui vous attend pour l'émission. Avant toute chose, mesdames, je veux vous demander cette question-là. Est-ce que vous connaissez ceci?
Ben, c'est un appel d'urgence, là, c'est un appel à l'aide, là, ou Jean-Michel Anctil.
C'est moi quand je bois du Pepsi.
Combien de temps après?
Ben, c'est tout le long, tout le long. À chaque gorgée, c'est ça que ça fait.
On t'en donnera pas en nom.
C'est vrai, quand on boit du Pepsi, ça brasse dans le ventre.
Oui, oui.
J'y avais pas pensé. Pascal, Antonine, je vous salue. C'est angine de poitrine,
ben,
tout le monde
oui.
En parle. Ben oui, comment vous avez trouvé ça?
Créatif. Mais moi, tant que l'équipe était d'accord, parce que c'est sûr qu'ils étaient au courant que ça allait se passer de même, je peux
ben
pas
oui.
croire. Guy Lepage a pris part à tout ça. Il y avait des sous-titres, ça nous a aidé à avoir une entrevue quelque peu concluante. Ça avait été juste des bruits, puis là, on comprend pas trop ce qui se passe. L'équipe était pas au courant. Ça prend 2 minutes, j'aurais été plus dans le questionnement de la mise en marché de ce groupe-là. Mais parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, eux, ils ont réussi.
Moi, je trouve ça créatif. Je trouve que c'est vraiment une forme d'art qu'on voit pas souvent, tu sais. Si vous allez dans des musées, là, puis que vous aimez les artistes performatifs, là, puis tout ça, vous êtes un amateur déjà de ça, vous voyez toutes sortes d'affaires comme ça, mais c'est une forme d'art qui se rend pas souvent au grand public.
J'ai la performance. Là.
Moi, là, leur musique puis leur apparence me donne un petit mélange de curiosité et d'anxiété.
Moi, il me stresse pour vrai. Moi, il me stresse.
Tu sais, quand tu fais dodo puis que t'as pris des mélatonines bon marché, là.
Là, c'était
moi, c'est des rêves de même, là.
C'est ça.
Tu prends de la mélatonine des ruelles de Québec.
Tu sais, là, la mélatonine cheap, là, puis là, tu rêves à des scorpions qui te demandent des formulaires
ouais.
De bureaucratie, des appels à main. Moi, je vois angine de poitrine.
Moi, je veux remercier, vous comprendrez le sarcasme, l'excellente Alexa Lavoie de Rebel News, un média hyper, hyper crédible, qui a critiqué la présence d'angine de poitrine à Tout le monde en parle. Et résultat, bien, on a eu le droit au meilleur de notre société, alors qu'un internaute a écrit, bien, ça serait bien qu'il se tire 2 balles dans la tête, ça serait fini. Il pourrait jouer à la roulette russe, ce serait plus intéressant. Ou à Joanne qui a dit que sur la page d'Alexa Lavoie, qui a dit « Ben non, moi je trouve ça intéressant. » On l'a traité de crise d'épaisse et de maudite attardée.
Vive le Québec libre!
C'est super. C'est vraiment constructif. Moi, c'est
oui.
ce que je retiens. Mettons, tu peux ne pas aimer ça, mais c'est important de d'inviter mm-hmm. les gens au suicide quand ils font une forme d'art que tu n'apprécies pas.
Exactement. Alors, Rebel News, c'est ce média qui essaye de dire qu'il est crédible. Et c'est tous les pollueurs de nos médias sociaux qui se retrouvent là. Là. Tu sais, quand vous avez leur une public, opinion contraire, là, qui vous écrivent, là, puis qui vous disent « T'es une crise de vache! Ou est-ce que tu vas te suicider, toi? » Bien, c'est tous les fans de Rebel News. Fait que je vous invite à ne jamais lire
il y a quelque
les
chose.
Textes et à ne jamais regarder les reportages de Rebel News.
Et moi, j'ai pas pensé avant de venir en onde à cette question-là que je vais vous poser, c'est ton commentaire en ce moment qui me fait poser la question. Je me questionne sur ceux qui font de la nouvelle-ish, là, du commentaire, quoi que ce soit, quand ils regardent ce qui est écrit en dessous, puis c'est majoritairement des commentaires haineux, des affaires comme une grosse connasse de ci, de ça. Est-ce que t'es fier du courant social que tu crées? Est-ce que des fois tu te questionnes sur si ça réagit comme ça, y a-tu quelque chose que je peux améliorer dans? Puis ça veut pas dire de te cacher ton opinion. En même temps, ça réagit de même, vous allez me dire, tout le temps,
c'est
réseaux.
C'est comme tout le temps. Fait que moi, je me dis, à un moment donné, moi, je me fie pas trop là-dessus. Par contre, c'est vrai que ce public-là est souvent très, très agressif. Moi, Rebel News, je les suis. Moi, j'aime ça tout voir et tout lire dans ma vie, puis faire ma propre opinion.
Ouais.
Puis Rebel News, il y a une affaire, je trouve, des fois, ils font du bon contenu. Et je dis contenu, pas nécessairement le traitement qu'ils en font, mais ils nous apportent des images, par exemple, de manifestations ou de choses qui se passent sur le terrain que des fois, les médias traditionnels plus classiques ne vont pas nous apporter. Après ça, le traitement qu'ils en font, c'est une autre histoire.
Ouais.
Et la manière dont c'est reçu est répercuté par leurs auditeurs, ça en est une autre.
Mais si t'es un média qui se respecte, va te tirer deux balles dans la tête, t'enlèves ça de ta page.
Ah oui, c'est clair.
Tu veux dire, tu fais un tri dans les commentaires.
Ben oui, c'est clair. Là, je veux dire, toutes les plateformes médiatiques le font faire un tri. Là.
Permets-moi de penser que ceux qui font angine de poitrine, en passant, c'est comme bien des groupes au Québec qui faisaient des tunes qui n'avaient pas de sens. Je pense à Black Tabou et tout ça, du monde intelligent qui sortait des tunes qui n'ont aucun... Ça a pris ce sens qu'on a tout chanté, qu'on a... Ils doivent savoir qu'ils vont aller générer une réaction comme ça. Ils doivent s'en foutre. T'sais, au vrai, ça doit être le genre de personne que pour eux, faire brosser un peu les choses,
ils aiment
ça.
Je pense que c'est un peu l'objectif. C'est une certaine absurdité, c'est de créer des réactions, qu'elles soient négatives ou positives.
Mais quand ça va aussi loin que dans la violence, à un moment donné, on fait ménage.
Attends une minute, as-tu dit absurdité?
Mais ils n'ont pas ri.
Non,
ils n'ont pas ri en faisant ça.
Mais tu sais, là, c'est sûr que si t'aimes pas Radio-Canada, déjà à base, le monde qui écoute Rebel News, là, tu vas dire, hey, regardez ce qu'ils font avec nos temps.
Ouais.
C'est facile. J'aimerais... Ben oui, ben
Anto,
oui.
Pascal, OK, dites aux auditeurs ce que je dis.
Good, good vibes only. Même,
non,
je me suis planté.
Non, c'était pas ça du tout.
Ah.
Pascal, c'est l'heure des manchettes.
Je te les aurais jamais commencé, Jeff, là, pour vrai. oui, il y a de la nouvelle aujourd'hui. Mais dans ce qui est sorti, mettons, dans les dernières minutes, là, je peux peut-être parler de cette enquête du BEI qui a été enclenchée. Donc, le Bureau des enquêtes indépendantes qui va se pencher sur une intervention, ça s'est passé samedi soir, cette semaine, donc en fin de semaine. La police de Québec est allée arrêter un suspect et le suspect a perdu conscience. Il se trouve actuellement dans un état critique. Élément déclencheur de l'intervention, c'est à 22h30. Une personne qui s'est présentée dans un domicile où il y avait une ordonnance qui lui interdisait d'y mettre les pieds. C'est important dans tout ça. Et là, les policiers auraient procédé à l'arrestation de la personne. Ils l'ont transporté pour détention, mais pendant sa détention, la personne aurait subi une perte de conscience. Et c'est ça, la nouvelle. Donc, les policiers qui l'accompagnaient auraient prodigué les soins à cette personne-là jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Le suspect a ensuite été transporté dans un hôpital et son état est jugé critique. Dans les circonstances, c'est là que le BEI enclenche une enquête. Donc, ça s'est fait hier après-midi. On veut savoir l'implication des agents du service de police de la Ville de Québec dans le dossier, c'est laquelle. Donc, il y a 5 enquêteurs qui ont été mandatés pour faire la lumière dans cette affaire-là. C'est souvent le cas quand il y a des circonstances du type dans un événement. Les services de soutien d'un corps de police extérieur, sont souvent amenés... enquêter. Je vous rappelle et on rappelle que l'organisation d'enquête arrive comme ça dans des dossiers chaque fois qu'il y a une personne qui décède ou qui est blessée gravement dans une intervention policière. C'est les informations que j'ai pour le moment. Si vous avez été témoin de quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez aller sur le site du BEI pour parler à quelqu'un. Mais c'est dans les dernières nouvelles que l'on a récoltées dans l'actualité. Prix du baril, ben là, on flambe les prix, c'est sûr. Est-ce que l'essence va venir à 2 $ d'ici le week-end? C'est une question qu'on se pose. Et ça, c'est dû à quoi? Le conflit au Moyen-Orient. J'ai fait un petit résumé en fin de semaine de tout ce qui s'est passé. Puis, entre autres, on a eu des frappes massives américaines, israéliennes en Iran. On a eu une riposte iranienne contre Israël et les pays du Golfe. Nouveau guide suprême iranien qui a été nommé, le fils de l'autre. Alors ça, ça fait des mécontents aussi parce qu'on veut une prolongation du système islamique qui était en place déjà. Un conflit qui s'est étendu régionalement. Et le pétrole, l'économie mondiale, qui sont fortement affectés. Vous êtes un peu anxieux, n'allez pas voir vos placements, mais le prix du pétrole, ça a dépassé 115 à 120 $ le baril, et ça monte encore en début de matinée. On a vu ça, c'est le niveau le plus élevé depuis 2022. Et là, les marchés craignent une perturbation du détroit d'Ormuz par lequel on transite environ 20 % du pétrole mondial. Voilà pourquoi on se pose la question. À nos bornes, est-ce qu'on aura les fragments de tout ça? Est-ce qu'on aura les répercussions de tout ça? Sachez qu'Emmanuel Macron à l'international, c'est sa priorité aujourd'hui, soit d'assurer un passage débouché du détroit d'Ormuz, mais aussi en sécurité.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Antonine, tout à l'heure, aux alentours de 13h05, avec Luc La Liberté, on va faire le tour de cette historique de hausse du prix de pétrole, ce que ça a amené aux États-Unis, au Canada, en termes de répercussions. Mais là, il est déjà 1,76 à Longueuil. Et c'est l'expert Yvan Clich, spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, qui a dit « Attendez-vous à ce que ça soit 2 $ ce week-end ». Ça va commencer à être dur pour Donald Trump de dire c'est très positif ce que je fais en Iran, même s'il a parlé de, tu sais, c'était un petit prix.
Oui.
Un petit prix à payer.
Oui, puis ça ne durera pas longtemps non plus, là, une couple de semaines. Ouais.
Peuple américain, le prix de l'essence va monter. Vous courez vers les banques alimentaires. Mais c'est un petit prix à payer pour ma guerre.
Non, puis quand le prix du baril de pétrole augmente, c'est vraiment toute l'économie, tous les prix qui sont affectés. Et les Américains ne sont déjà pas très chauds à l'idée d'aller faire le gendarme mondial. Hein. Même si les États-Unis font ça depuis des décennies, c'est un peu un rôle qui leur est tombé dessus par les circonstances de la géopolitique. Parce que dans la culture américaine, c'est l'Amérique d'abord. C'est conquérir notre territoire à nous et après ça, s'assurer qu'on est en sécurité, oui. Mais de là, aller faire tomber des tyrans un peu partout dans le monde pour le plaisir, il faut que les Américains comprennent très, très bien qu'on n'a pas d'autre choix. Hein, ça a été très long avant que les Américains veuillent embarquer dans les guerres mondiales parce qu'il fallait le justifier. Puis quand les présidents ont décidé d'y aller, il y a un coup politique à tout ça. Et le mouvement MAGA est tout particulièrement isolationniste. Ne croit pas aux institutions multilatérales, pense qu'il faut concentrer nos énergies, nos ressources chez nous d'abord. Donc, ça va devenir effectivement difficile pour M. Trump quand les gens vont commencer à sentir le prix à la pompe.
Fait que d'écouter notre ami Benjamin Netanyahu, c'était peut-être pas la bonne idée pour Donald Trump.
Bien, c'est ça. Les Américains peuvent se dire, bien, oui, on est allié avec Israël, mais tu sais, comparons par exemple avec ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan. En Afghanistan, les États-Unis avaient été attaqués sur leur territoire et il y avait l'entente de l'OTAN qui entrait en ligne de compte. C'est-à-dire quand un des membres de l'OTAN est attaqué, tous les membres de l'OTAN défendent ce membre de l'OTAN. Donc ça, c'était un cas bien particulier. Ça a été coûteux, l'Afghanistan. Ça n'a pas donné nécessairement ses fruits, mais c'était une nécessité. Puis je pense que les Américains le savaient très bien. L'Irak, ça a été un autre cas. Ça a été difficile de convaincre. Il y a des gens qui ont suivi, mais on a essayé de convaincre les alliés avant de partir en guerre. Et finalement, ça n'a pas donné des fruits exceptionnels. Ça a été des années très difficiles d'instabilité et des cercueils. Tu sais, les cercueils avec les petits drapeaux américains dessus là, qui rentrent au pays, il y en avait beaucoup. Pour l'opinion publique, ça a laissé des traces aux États-Unis. Donc là, de s'embarquer dans une guerre comme ça qui, somme toute, a certaines ressemblances avec l'Irak, même s'il y a aussi des différences, on souhaite bonne chance à M. Trump pour justifier ça.
Parlant de gens et de politiciens qui parlent des deux côtés de la bouche, on écoute notre ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.
Bon, réponse rapide à leur demande, non. C'est-à-dire que je ne vais pas rétablir le PEC, qui est un programme qui est fermé, pour lequel on ne fait que traiter les dossiers qui ont déjà été soumis.
Ça, c'était le 26 janvier sur les ondes de Boulevard 102. Mais là, gardons ça! On va sacrer du monde dehors ici qui sont au Québec puis qui parlent français. Mais on dit aux gens du ministère, continuez vos petits voyages à l'étranger pour nous ramener des immigrants. Je comprends plus rien.
Ça fait des années que le gouvernement Legault dit qu'il y a trop d'immigration temporaire et veut réduire les seuils d'immigration. Donc, il y a déjà une dissonance quand on voit que le ministère de l'Immigration va continuer de recruter à l'étranger. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu te dis c'est loufoque. Là, on vient de fermer le programme Expérience québécoise. Il y a des gens qui vont devoir quitter, mais on va aller en chercher d'autres à l'étranger. Mais il faut comprendre que il y a des besoins économiques spécifiques, des domaines dans lesquels on va aller chercher des gens. Donc, on ne peut pas tout mettre ces gens-là dans le même panier. Par contre, il faut s'assurer que le gouvernement, dans les orphelins du PEC, je le mets entre guillemets parce que je ne suis pas trop fan de ce terme, mais que les gens qui répondent à ces besoins-là aient été contactés et invités à appliquer dans le nouveau programme là, qui vient remplacer le PEC pour l'immigration économique avant d'aller en chercher d'autres à l'étranger.
Mais oui, là, c'est ça.
Là, c'est juste logique. On me dit, là, j'ai demandé au gouvernement, j'ai posé la question, est-ce qu'on s'est assuré qu'on priorisait vraiment les gens qui sont déjà ici? On m'a dit oui. Par contre, on cherche des éducatrices, on cherche des infirmières, on cherche du personnel dans des domaines bien particuliers. En tout respect pour les gens qui travaillent chez McDo, si tu es gérant chez McDo puis que tu as perdu ton... Tu vas pas devenir éducatrice demain matin. Donc, c'est pas des vases communicants tout le temps.
Je suis entièrement d'accord avec toi. La seule chose... Il y a deux choses qui me dérangent là-dedans. La première, c'est que c'est fait en cachette. Dites-le. La deuxième, c'est... est-ce qu'on peut, premièrement, gérer la crise qu'on a là? Puis après ça, une fois qu'on se sera assuré que tout le monde est placé à bonne place, bien là, recommencer à faire nos missions à l'étranger. Ouais. Je trouve qu'on saute une étape.
Je comprends. Puis politiquement, ça a l'air fou. Puis de toute façon, tout ce qui sort de la bouche de Jean-François Roberge en ce moment, le message ne passe plus. Là. Donc, bonne chance à M. Roberge pour venir expliquer ça. S'il avait décidé de faire une tournée d'entrevue pour expliquer, écoutez, je veux juste vous aviser, il y a quand même des missions à l'étranger qui se passent, mais tu sais, les gens n'écoutent plus de toute façon ce que dit ce gouvernement-là en ce moment. Il est tellement affaibli, le ministre Roberge. Il faut savoir que les missions de recrutement à l'étranger, ça a beaucoup, beaucoup réduit aussi. Parce que moi, il y a une époque, là, on allait recruter...
Les valves étaient ouvertes en tabarouette.
Les valves étaient ouvertes et on disait qu'on voulait recruter en priorité dans des domaines comme les TI, comme la santé, mais on recrutait surtout des gens pour l'hôtellerie puis la restauration là, à travers tout ça. Donc, il y a quand même eu une amélioration. Puis, on a encore des pénuries dans certains domaines, dont dans le domaine de l'éducation, de la petite enfance, de la santé. Donc, est-ce qu'on veut vraiment arrêter nos efforts? Puis, aussi, il faut concentrer nos efforts de recrutement dans certaines régions du monde. Je m'explique, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y limiter. Mais, tu sais, on parle beaucoup de protéger la langue française. Il y a des pays pour qui le français a une plus grande proximité. Je pense à des pays qui parlent des langues latines, comme l'espagnol, l'italien, etc., portugais. Mais je pense aussi à des pays qui ont une histoire plus liée au français. Il y a des pays dans lesquels le français, c'est la deuxième langue. On peut penser à des pays africains. On peut penser aussi à des pays comme le Vietnam. Ça peut surprendre, hein, mais la vague d'immigration des Vietnamiens dans les années 70-80, souvent parlait français parce qu'il y a une histoire de colonisation française à travers ça. Et ça, là, ça veut dire des gens qui apprennent le français beaucoup plus facilement. C'est moins de ressources de francisation. À un moment donné, la CAQ a décidé de dire ben il faut savoir parler français avant d'immigrer. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'apprendre avant d'arriver. Un Mexicain ou une Colombienne, ça apprend le français en l'espace de quelques mois assez facilement. C'est sûr qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus... On part de plus loin. Là. Par exemple, je pense aux personnes qui arrivent de la Chine. C'est très difficile pour quelqu'un qui parle mandarin ou cantonais d'apprendre le français. C'est possible, mais ça prend plus de temps.
Les Ukrainiens qui sont venus ici ou lors de la guerre avec l'invasion de la Russie en Ukraine, ça a été plus complexe aussi faire en sorte que le français soit très acquis rapidement.
Il n'y a pas de proximité linguistique. Puis, mais tu sais, la question, par exemple, des Ukrainiens, ben, c'est des réfugiés de guerre. Hein. Ça, c'est autre chose.
Ouais, exactement.
Quand on parle d'immigration économique, là, on va vraiment trier sur le volet. Puis, il n'y a pas de honte à choisir des gens selon le marché du travail ou pour protéger la langue française. Les réfugiés, ben, c'est sûr que là, c'est selon ce qui se passe dans le monde. Puis, il faut faire notre part aussi du point de vue humanitaire.
On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment de 12h05 à 12h30, du lundi au jeudi. Venez nous voir sur twitch.tv/bl. LVD, barre en bas FM. Parce qu'en tout, ton chandail, il est beige?
Oui, blanc cassé. Là.
Ouais, c'est ça, blanc cassé, ouais. Beige. OK, parfait. Je vais te faire entendre justement sur l'immigration un politicien beige. T'es prête?
Oui.
Fais attention.
Je lui ai dit qu'on était favorable, nous, Depuis Paul Gérin-Lajoie, ce qui est davantage de pouvoir en immigration, en culture aussi, on pense qu'il faut aussi régler le déséquilibre fiscal. Donc, on pense pas que le Canada est parfait. On pense que le Canada, c'est le meilleur deal, c'est le meilleur ensemble pour le Québec.
Mais plus de pouvoir en immigration et les pouvoirs totaux, vous vous situez où là-dedans?
Ben, en fait, on a besoin, premièrement, qu'Ottawa nous consulte davantage sur les demandeurs d'asile. Et si on a un grand nombre de demandeurs d'asile comme en ce moment, il faut que les sommes suivent.
Me semble c'est un 30 secondes rempli de mots qui veulent rien dire.
Écoute, moi, là, je suis fan de la nuance dans la vie. Alors, j'ai une tolérance quand même élevée aux teintes de gris dans les réponses, OK? Parce que je trouve que des fois, en communication politique, on est simpliste pour faire la clip simple, OK? Puis, j'ai pas de problème. Mais là, à un moment donné... On va quand même avoir besoin de réponses sur des enjeux.
Ma question était simple, là. Plus de pouvoir ou les pleins pouvoirs, vous situez où? Bien là, en fait, c'est parce que, tu sais, vous savez, on a beaucoup de réfugiés, puis il faut comprendre que...
Oui, je suis d'accord avec toi.
C'est la couleur de ton gilet, là, le nouveau chef du Parti libéral.
Si on devait distribuer des couleurs SICO, là, de peinture SICO, Charles Milliard, il a le beige apaisant.
Ah, j'aime ça, le beige apaisant!
Moi, le beige, j'aime ça. Ça plaît à tout le monde, c'est correct. Ouais. Mais à un moment donné, ça prend des petites touches de couleur et de clarté là, à travers ça. Je veux savoir c'est quoi ta position sur la réforme du B, par exemple. Ouais. Éventuellement, je vais vouloir savoir là, qu'est-ce qu'on fait avec le système de santé. On maintient l'agence comme elle est là? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Je veux savoir sur la laïcité. La loi 21, hey, mais là, allez-vous la maintenir ou pas?
Attends, j'ai posé la question ce matin à Charles Milliard. Tu vas voir, on a une réponse full concrète.
Que le gouvernement fédéral a compté sur tout ça, c'est une décision qui leur appartient. Mais moi, ce que je peux vous dire, dans un état de droit, ça ne fait pas l'affaire des politiciens, mais toute loi est contestable. C'est normal que dans une démocratie, on conteste des lois. Après ça, si on n'est pas content du jugement d'une cour, là, le peuple a le dernier mot. C'est ça l'utilisation de la clause dérogatoire. Mais on l'utilise après que les tribunaux soient passés. Tu sais, si on vit dans un état de droit, on est bien fiers de ça. On regarde les autres pays, on se compare avantageusement, mais ça vient avec des responsabilités aussi.
OK, mais il est pour ou il est contre la loi de la laïcité?
Bon,
il est où, là?
Là, premièrement, il est sur la clause dérogatoire.
Oui.
Et les libéraux n'arrêtent pas de me parler de clause dérogatoire, mais sur le fond des choses, je ne suis jamais capable de savoir s'ils sont d'accord ou non avec cette loi-là.
Bien, on ne sait pas plus, là.
Parce que c'est bien beau, la clause dérogatoire, là. Puis je pourrais en parler pendant une heure parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit qu'il faut passer avec la clause après les tribunaux. On pourra plus gouverner, mais en tout cas.
Exactement.
Mais sur le fond des choses, là, je vais vouloir savoir exactement. Hier, à Tout le monde en parle, Charles Milliard, ce qu'il a dit, c'est qu'il était d'accord avec le compromis Bouchard-Taylor. OK, tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est comme la tarte aux pommes. Là. Il y a 6 personnes qui sont plus d'accord avec Bouchard-Taylor. Là. Ça commence à faire longtemps. Les choses ont évolué. Donc, vous me dites, M. Milliard, que vous ne voulez pas élargir, que vous êtes contre. J'ai pas de réponse. Dans la question que tu as posée, je ne sais pas, la loi 21, si on la maintient intégralement ou si on recule, je ne le sais pas. Après, sur les seuils d'immigration, M. Milliard nous dit que... Et c'est un dossier qu'il connaît bien, M. Milliard. Il a été à la tête de la Fédération des chambres de commerce. Mm-hmm. Il s'est beaucoup intéressé. Et une des revendications qu'il avait à l'époque, c'est qu'on devrait mieux définir c'est quoi la capacité d'accueil. Parce qu'il disait, les politiciens nous parlent autant de capacité d'accueil, mais on ne sait pas c'est quoi la capacité d'accueil. Ça s'augmente-tu une capacité d'accueil? Est-ce qu'on fait exprès de la baisser pour avoir moins d'immigrants? Donc, puis, sur sa réponse, quand il s'est fait demander, OK, mais c'est quoi, vous, votre chiffre? Il a dit, moi, je vais y aller par région, région par région. Je veux bien. Mais il faut faire le total à un moment donné.
Oui, il faut faire le total parce que ça se peut que je sois en Beauce puis je décide de m'en aller à Montréal à un moment donné.
Bien, c'est ça l'autre affaire. C'est qu'un immigrant, tu ne l'envoies pas dans une région puis il est attaché là avec des chaînes. Je suis désolée, ça ne marche pas comme
ça. Tu sais, moi, si on m'offre un excellent emploi à un moment donné à Longueuil, bien, ça se peut que je me ramasse à Longueuil puis je vais à Québec.
Puis les chances quand tu es immigrant de retourner à Montréal sont assez élevées. Là,
exactement. Là, une chose qui était, par exemple, plaisante, c'est que Yannick Marceau, notre animateur du matin, dans Marceau le matin, il a posé une question concrète sur Marois Risky.
Bon.
Alors là, sa question était pourquoi vous l'avez exclu?
Bon.
Voici sa réponse.
L'occasion de dire que ce n'est pas un procès contre Mme Risky d'aucune façon. Et ce n'est pas que vous savez pas des choses sur elle, c'est que moi, il me manque des informations sur tout ce qui s'est passé ou pas dans les derniers mois. Alors, il y a eu tellement d'actions que moi, dans ma façon d'être, je préfère laisser les choses comme ça, avoir l'information. Il y a des procédures en cours. Malheureusement, depuis que j'ai annoncé cette décision-là, j'ai eu aucune nouvelle de rien.
Fait que la seule vraie réponse qu'on a de Charles Milliard quand on pose une question, c'est « Allez-vous voter oui ou non au prochain référendum? Oui. » Ça, il dit non!
Mais il dit non, mais il dit qu'en passant, il trouve que c'est très légitime de faire un référendum. Il est très, très nuancé. Honnêtement, ça ne me déplaît pas. Okay?
Mais c'est pas la stratégie. On est encore loin des élections. Oui. Faut pas trop faire brasser d'eau que tu nous parles souvent.
Oui, oui, absolument. On est vraiment là-dedans. Sur Marois Risky, c'est la seule affaire sur laquelle je suis vraiment d'accord avec lui. On le sait pas. Puis sa réponse est correcte. Pour moi, tout ça, c'est correct. Ouais. C'est juste que si tu l'additionnes avec toutes les autres sur la langue, sur la laïcité, sur les seuils d'immigration, vendredi, il y a eu la décision de la Cour suprême sur l'accès aux enfants des demandeurs d'asile dans nos CPE. Puis encore une fois, c'est un long tweet avec toutes sortes de nuances. C'est super, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir comprendre quand même c'est quoi là, le projet politique qu'on nous propose. Ouais. Mais regarde, il vient d'arriver. On va y laisser le temps d'arriver. Mais je vais vouloir savoir, c'est quoi ton seuil d'immigration? Puis, excuse-moi, là, tu dis, je vais consulter les régions. Tu sais, je peux pas croire que ton idée à 6 mois des élections n'est pas un petit peu
non,
faite.
C'est ça.
Sérieusement.
Moi, ça m'énerve, le beige. Je suis pas comme toi, ça m'énerve. Prends une décision.
Chez vous, là, il y a des murs de couleurs.
Mais non, mais prends une décision, Caroline. Tu vas faire quoi? Mais là, je sais pas encore.
Ça te fait-tu penser à un autre...
Tu vas être un premier ministre, prendre une décision.
Ça te fait-tu penser à un autre politicien? Je vais consulter, je vais réfléchir.
T'attendais.
Non.
Lequel?
Christine Frégette.
C'est vrai!
Fait que là, on s'en va peut-être vers ça, là, la gang. Là. Hey. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est plus tranché.
Ouais.
Il est plus tranché, mais il n'est pas simpliste. Hein. Puis en passant, ses tweets sont longs à lui aussi. Là,
oui.
Ça peut être long.
Ah oui, son tweet par réponse à Charles Milliard sur « Imitant la main puis la Constitution », j'ai saigné les yeux.
D'ailleurs,
là.
Ça, c'est une affaire que je voulais vous amener aujourd'hui. C'est qu'ils ont commencé une relation de correspondance. Ces deux-là, ils s'envoient des lettres.
Oui.
Textez-vous.
Ouais, textez-vous. C'est ça. Organisez-vous pour aller prendre un café
ensemble. Allez prendre un café.
On n'est pas obligé de savoir tout ce que vous dites.
On peut faire l'autre midi à la table d'à côté avec vous deux si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je pense que PSPP, bien qu'il y ait des nouveaux adversaires en face de lui qui, peut-être sur le coup, tu te dis « Ah, j'aimais mieux être face à un François Legault impopulaire puis un peu vieillot. Mm-hmm. » Tu as deux nouveaux chefs un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, mais qui sont quand même un petit peu pas clair sur les positions à prendre. Donc, lui, est-ce qu'il va peut-être tirer avantage de ça pour apparaître comme « Ben, moi, quand PSPP parle, je comprends c'est quoi qu'il me dit. » Tu sais, genre, c'est ça, sa position.
C'est
après
ça,
tu peux être pour ou contre, mais moi, au moins,
tu le sais. Moi, je veux voter pour quelqu'un que je sais qu'est-ce qu'il va faire.
C'est ça.
Pas quelqu'un que je ne sais jamais ce qu'il va faire. C'est ça qui m'énerve. C'est vraiment ce que je veux.
Moi, je trouve quand même que Christine Fréchette est plus claire que Charles Milliard pour l'instant.
Oui.
Cela dit, elle est ministre depuis 2022. C'est sûr qu'elle a pris plus de positions claires. Charles Milliard n'a pas cette obligation-là encore pour l'instant. Et il n'est pas à la période de questions, hein, je le rappelle. Mm-hmm. Il n'est pas député en ce moment, ce qui fait en sorte qu'il lance des choses un peu dans les airs. Il essaie de séduire l'électorat, mais il ne se fait pas répondre par François Legault ou par le prochain chef. Donc, c'est quand même avantageux, là, son petit beige-beige, là, pour l'instant.
T'as entièrement raison. Par texto, on nous dit la chanson de la prochaine campagne électorale du PLQ, 50 Shades of Beige.
J'adore.
J'adore ça. Continuez à nous texto 418-971-1021.
À Boulevard 1021, avec Jeff Fortin.